10 décembre. Madeleine est rentrée ce matin. Cela m'a surpris. La fois précédente, j'avais dû la chercher. Pourtant, le motif de son départ avait été beaucoup moins grave. Aujourd'hui, alors que tous les torts sont de mon côté, elle revient d'elle-même. Quand elle est reparue, je me suis sentie un peu gênée. J'ai commencé par faire comme si rien ne s'était passé, lui demandant si elle avait bien dormi, parlant de choses et d'autres. Mais elle ne me répondait pas. Je lui dis alors « J'espère que je ne t'ai pas causé trop de peine. » Elle me jeta un regard méprisant, comme si c'était de la fatuité de ma part de m'imaginer que je pouvais l'affliger. Un instant, je songeais à lui dévoiler la nuit affreuse que j'avais vécue sans elle. Mais je me retins, tellement il était évident qu'elle ne me croirait pas. Maintenant que je suis plus calme, je m'étonne de mon courage. Je m'étonne, comme jadis lorsque je rudoyais Maud, qu'il ne soit pas venu à l'idée de Madeleine de le prendre de haut. Qu'aurais-je fait alors? Je m'étonne d'avoir eu recours à la force, d'avoir obscurément pensé que la guerre est la guerre. Je m'étonne encore que Madeleine n'ait pas songé à parler plus fort que moi, à se fâcher, à me menacer. Ce qu'il y a de surprenant dans les grands accès de colère, c'est cette possibilité qui demeure en soi, qu'un seul mot éveillerait, de devenir brusquement le plus doux des hommes. Au comble de l'excitation, on songe à ce point faible, à cette sorte d'ouverture sur la sérénité, et on est surpris que l'adversaire vous considère comme si cette ouverture n'existait pas. J'ai passé toute la matinée dans un abattement profond. Madeleine, que je supposais capable de répondre aux pires violences par des violences plus grandes encore, m'est apparue comme une pauvre enfant sans défense. Je ne sais rien de plus pénible que d'avoir vaincu la fierté de quelqu'un. Quand on s'emporte, quand l'indifférence d'autrui vous blesse, une voix vous crie que vous n'aurez pas assez de toutes vos forces. Par la colère, on en acquiert de nouvelles, celles qui vous manquent. Et lorsque, muni de toutes les puissances possibles de son être, on s'aperçoit brusquement que l'adversaire n'a pas pu résister, qu'il s'est misérablement effondré, comme lancé par une catapulte pour sauter un mince ruisseau, on se retrouve brusquement seul, avec son effort disproportionné. On domine de si haut la situation qu'on en a honte. On se sent cruel, méchant, dur. Par amour-propre, on ose demander pardon. On reste sur des positions que l'on a tout fait pour conquérir, mais auxquelles on ne tient plus. Alors on entrevoit à quel point on a été inhumain. Madeleine ne m'a pas encore parlé. Je l'ai vue ce matin procéder à sa toilette, comme si rien ne s'était passé, mais avec pourtant sur le visage quelque chose de ressaisi. Pas une seule fois elle ne m'a regardé. Autant hier je me suis senti fort, autant aujourd'hui, devant elle, j'ai l'impression d'être faible. C'est un sentiment insupportable que celui que l'on éprouve lorsqu'après avoir fait souffrir un être que l'on aime, on le voit vivre, fortifié par des décisions sur lesquelles il ne reviendra pas et que l'on ignore. On est inquiet. On n'ose parler le premier, de peur justement d'apprendre quelque chose de terrible, et l'on observe avec anxiété celui ou celle qu'on aime se préparer avec un air décidé à une vie nouvelle que l'on ne connaît pas. En regardant Madeleine aller et venir, comme si elle était seule à la maison, j'appelais de toutes mes forces une visite. Dans de pareils moments, on se rabat sur autrui, car ce qu'on désire par-dessus tout, c'est que le visage aimé s'anime, se détende, même pour un étranger. Pourtant, je ne montrais rien de mes sentiments. Je me rendais compte combien il était injuste d'avoir fait une scène pareille à Madeleine pour des fleurs qu'un vieil homme lui avait données, ce dont, comme elle me l'a dit, j'eusse plutôt dû être fier. Mais je n'avais pas le courage de reconnaître mes torts, d'autant plus que je sentais que ma femme n'accepterait même pas mes excuses. Si j'avais imploré son pardon, elle m'eût accueilli avec mépris, car bien qu'elle ne soit pas rancunière, elle n'en considère pas moins qu'une offense est irréparable. J'appréhendais cette phrase « Tout est fini entre nous ». Je l'observais donc avec une méfiance que je ne songeais même pas à dissimuler, puisqu'elle faisait si peu attention à moi. Je n'avais pas la force de lui parler. Pourtant, j'eusse été capable de pleurer devant elle sans que mon amour-propre en souffrît. Finalement, José lui demandait pourquoi elle s'apprêtait avec tant de soin. Elle resta muette. Je me rendis un instant dans mon bureau, puis, revenant près d'elle, je lui adressai la parole avec détachement. « As-tu donné les ordres à la cuisine ?» Je me doutais que, malgré tout, elle serait assez sensible à cette question. En effet, elle me répondit, mais d'une manière inattendue, « Si tu veux déjeuner ici, tu n'as qu'à les donner toi-même. » Puis elle continua sa toilette. Je me tus et je regagnai mon bureau. Il ne devait pas être loin de midi lorsque la femme de chambre m'annonça la visite de M. Spiegelman. J'allai à lui avec joie. J'aurais eu à choisir parmi tous mes amis celui dont la compagnie m'eût été la plus précieuse en cet instant, ma préférence se serait portée sur Spiegelman. Je savais combien il était indulgent, conciliant. Vis-à-vis de lui, je n'éprouvais aucune gêne à me montrer sous mon vrai jour, à ne cacher ni ma jalousie ni mes craintes. « Eh bien, comment allez-vous » me demanda-t-il tout de suite. « Vous avez eu tort de ne pas suivre mes conseils. Elles ont monté et elles montent encore les fameuses valeurs dont je vous avais parlé. » Monsieur Spiegelman prononça ces paroles avec gentillesse sur le ton que l'on prend pour annoncer à un ami que l'on s'est bien amusé sans lui. « Et comment va Madeleine ? » continua-t-il. « Vous avez un trésor dans cette femme. » Par un geste, je lui fis comprendre que cela n'allait pas du tout. « Qu'est-ce que vous lui avez encore fait ? » poursuivit-il avec un bon air, comme s'il se fût agi d'une brouille d'amoureux. Je sentis à sa question que tout lui semblait possible, sauf une séparation, sauf de la haine. M. Spiegelman, bien qu'il vive seul, qu'il n'ait aucun parent, respecte et adore profondément la famille. Elle est la seule chose belle en ce monde, la seule chose sur laquelle il s'attendrit. Il ne lui venait même pas à l'idée qu'il pût arriver quoi que ce fût de grave entre Madeleine et moi. « Je vais arranger cela, » dit-il avec un sourire. Je compris alors que ma joie de le voir ne reposait sur rien. « Je crois, continua-t-il, que vous êtes encore chicané au sujet d'un enfantillage, d'un chapeau. » Cet homme qui, lorsqu'il parle d'argent, est rusé et malin, ressemble à un enfant quand il s'agit d'amour. Brusquement, j'eus honte de ce qui s'était passé la veille entre Madeleine et moi. S'il avait pu assister à cette scène, il en eût été terrifié, il se fût demandé s'il ne rêvait pas. J'avais déjà senti depuis longtemps qu'il me reprochait de n'avoir pas d'enfant. Pour lui, un ménage, c'était deux êtres qui s'aimaient, qui formaient un couple uni, entre qui jamais la moindre querelle ne s'élevait. « Où est Madeleine ? » me demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondis-je, avec la crainte qu'il ne la vît. « Elle doit pleurer dans un petit coin, » ajouta-t-il. « Elle doit attendre avec impatience que vous veniez lui demander pardon. » Je ne m'en irai pas d'ici avant que vous le fassiez. Ah, innocent Spiegelman, si vous aviez compris la gravité de ce qui s'est passé, si vous aviez su comme ce qui sépare Madeleine et moi est irrémédiable, vous auriez été épouvanté. Je n'avais plus qu'une pensée maintenant, lui cacher la vérité, changer de conversation, détourner son attention de nous. Écoutez, Spiegelman, je suis content de vous voir, car je voulais justement vous demander de m'acheter quelques valeurs, celles que vous me recommanderez. » Le banquier me regarda avec un petit air vainqueur. « Trop tard maintenant, trop tard. Il fallait me dire cela il y a un mois. En ce moment, il n'y a rien d'intéressant. Vous ne savez donc pas ce que vous voulez ?» Cette dernière phrase me plongea dans un abîme. Alors, toujours, je ne savais pas ce que je voulais. C'était donc toujours au mauvais moment que j'agissais. Je fais à Madeleine une scène terrible alors qu'elle est innocente et quand elle me traîne à la remorque de Roger, je ne dis rien. Je me sentis misérable, mais je n'eus pas le temps de réfléchir sur le lamentable personnage que je suis. Spiegelman dit « Enfin, Louis, conduisez-moi auprès de votre femme. Il faut être indulgents les uns aux autres. » Je cherchais Madeleine. Quand je lui annonçai que Spiegelman serait heureux de lui parler, elle me répondit que ce n'était pas réciproque. J'étais de plus en plus nerveux. En retournant auprès de Spiegelman, je lui expliquai que ma femme allait très bien, mais qu'elle ne pouvait venir parce qu'elle se reposait. Mais je suis un vieillard, dit-il, je ne la fatiguerai pas. D'ailleurs, c'est vous qui avez certainement tous les torts, Louis. Vous ne savez jamais ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous désirez acheter des valeurs alors que la bourse est mauvaise, et quand je vous recommandais de le faire, vous ne vouliez rien entendre. Vous êtes un capricieux. » En disant ces mots, il se dirigea vers la porte que j'avais franchie un instant auparavant. « Je peux ?» me demanda-t-il. Il ne me restait qu'à hocher la tête en signe d'acquiescement. Une fois seul, une lourde anxiété m'envahit. Je connaissais trop Madeleine pour ne pas douter qu'elle ne s'emportât contre cet homme, assez hardi pour se mêler de lui donner des conseils. En effet, à peine Spiegelman m'eut-il quitté que j'entendis ma femme dire d'une voix cassante « Monsieur, ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Mon mari est un sauvage. C'est un homme qui a fait souffrir toutes les femmes qu'il a connues. Mais avec moi, c'est fini, je le hais. » Quelques secondes après, je vis reparaître Spiegelman, le visage complètement changé. Il était accablé. Son air de tout à l'heure, cet air souriant et confiant de conciliateur sûr de soi, avait disparu. Il semblait ne plus comprendre, il semblait stupéfait d'avoir entrevu un gouffre qu'il ne soupçonnait même pas. Il s'approcha de moi et gravement me demanda « Mais enfin, c'est votre femme, n'est-ce pas ?» Je baissai la tête. Soudain, la porte s'ouvrit et Madeleine, resplendissante, dit d'une voix aiguë « Louis, je te défends de continuer à parler de moi. Tu pourras le faire quand je ne serai plus là, c'est-à-dire dans très peu de temps. » Puis, s'adressant au banquier, « Et vous, monsieur, je ne comprends pas que vous l'écoutiez. » Là-dessus, elle partit en claquant la porte du salon. Les colères de Madeleine sont froides et durent des heures. Elles sont toujours causées, non pas par un mot, non pas par un geste, mais par un événement qui s'est passé quelquefois une semaine plus tôt. Alors, ce n'est pas une porte qu'elle claque, mais toutes les portes, et cela pendant plusieurs jours. À ces moments de rancune glaciale, elle laisse apparaître quelque chose qui me peine plus encore que sa colère, c'est une sorte de vulgarité. On la sent capable de donner des gifles, non pas de prononcer des mots grossiers, mais de traiter correctement son ennemi d'usurier, de voyou, de brute. Je regardais Spiegelman. Sur son visage, je lisais que je devenais à ses yeux un étranger, qu'il se demandait comment il avait pu me confier son amitié, lui pour qui le mariage était sacré. De même qu'il détestait ceux qui veulent paraître plus qu'ils ne sont, il a en horreur les familles sans union, les ménages où l'on bataille sans cesse. Il sentait à présent qu'il s'était trompé à mon sujet. Et ses yeux, qui ne me quittaient plus, avaient un peu l'expression que doivent avoir ceux d'un père dont l'enfant se serait rendu coupable de quelque crime. Alors il se passa une scène extraordinaire. Petit à petit, je vis ses traits se durcir, sans pourtant qu'aucune de ses paroles fût prononcée sur un ton désagréable. Il se mit à parler de choses et d'autres, mais sans faire la moindre allusion à Madeleine. Puis il s'apprêta à partir. Comme je lui demandais de n'attacher aucune importance à ce qui s'était passé, affirmant que c'était une petite scène de ménage, comme il en arrive entre gens qui s'aiment, tâchant ainsi de lui laisser entendre que la prochaine fois que nous nous reverrions, tout cela serait oublié, il dit « Mais naturellement, nous savons tous ce que c'est. Nous avons tous eu les mêmes ennuis. » Je devinais pourtant qu'il mentait. Il dut le discerner, car il éprouva le besoin de surenchérir. À moi-même, il est arrivé pis que cela. Son étonnement passé, il avait beau, comme beaucoup d'amis, vouloir faire croire que lui-même était semblable à moi, je ne le crus pas. Comme je le reconduisais à la porte d'entrée, il me dit « Cher Louis, il faudra que vous veniez me voir au sujet de vos valeurs. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Avec la bourse, on ne sait jamais. Une occasion se présentera sans doute d'ici peu. » Après le départ de Spiegelman, j'ai tenté vainement de m'expliquer pour quelles raisons il m'a enjoint d'aller le voir. Était-ce parce qu'ayant fait le deuil de mon amitié, il ne voulait pas se priver d'un client ? Était-ce parce que, subitement, il avait eu le pressentiment qu'une scène de cette violence n'avait pu être causée que par des soucis d'argent et que, par amitié, Il voulait me réconcilier en quelque sorte avec Madeleine en me permettant de spéculer heureusement. Était-ce simplement pour dire quelque chose, sans la moindre arrière-pensée, pour rompre un silence? Je tâchais d'éclaircir ce point. Puis, lorsqu'après avoir tourné ses paroles dans tous les sens, je m'en lassais, je tombais dans un profond abattement. J'avais l'impression que, par ma faute, je perdais tous mes amis, que jamais Madeleine ne me pardonnerait, que déjà j'étais seule. Je ne savais que faire. Au milieu de mon désespoir, les dernières paroles de Spiegelman me revenaient sans cesse à la mémoire. Tout à coup, il m'apparut étrange que le banquier, alors qu'il était encore mon ami, m'eût déconseillé d'acheter des valeurs, cela pour se dédire au moment même où je ne lui inspirais plus aucune sympathie. En cette volte-face, je vis la preuve que cet homme, non content de m'abandonner, voulait encore me causer du tort en me faisant perdre de l'argent. Finalement, je me décidai à sortir pour changer d'atmosphère, pour oublier tout cela, pour tâcher de me ressaisir. Mais à peine me trouvais-je dehors que le dégoût que j'avais de moi-même s'accrut encore. Les moments où l'on perd un camarade à qui pourtant on attachait guère d'importance sont pénibles. En marchant dans les rues encombrées, je songeais à mon passé, à moi-même, à ce que j'étais. Ce fut ainsi que, sans que je susse pourquoi, je pensais que, souvent, je regrettais que les facilités que j'avais eues dans ma jeunesse à satisfaire des vices, que malheureusement je n'avais pas, ne se présentassent plus. Devant les difficultés que l'on rencontre plus tard à s'assouvir, comme on déplore de ne pas être un enfant. Et il m'arrivait de le déplorer aussi. C'est odieux. Avec une telle âme, tout est possible. Je suis ridicule de m'étonner qu'un Spiegelman se détourne de moi. Tout le monde devrait se détourner de moi et me laisser à mon sort. Et je m'étonne et je trouve étrange ce qui se passe. Mais brusquement, je sortis de moi-même et je vis de loin l'homme que j'étais par rapport à autrui. Je m'étonnais alors que l'on eût tant d'égards pour moi et j'en vins à me demander comment il se faisait qu'on prît mon existence au sérieux. Ce qui m'eût paru logique, c'eût été que mes amis m'abandonnassent et ce fut avec stupeur que je constatai que ma conduite avait une répercussion sur mon entourage. Madeleine souffrait à cause de moi. Comment cela pouvait-il se faire ? 11 décembre. Depuis que Roger a disparu, depuis la scène que je lui ai faite, Madeleine n'est plus la même. Elle semble détachée de tout. Quand je lui parle, elle me répond à peine. Je ne sais alors si je dois insister ou bien me taire. En lisant le journal ce matin, j'ai appris que Marcel Perceval avait été nommé gouverneur d'une colonie française. Cela m'a pourtant laissé complètement indifférent, bien qu'il y ait de quoi être étonné quand on connaît l'homme, et je ne me serais pas donné la peine d'en parler sans la visite de son ami de toujours, Loustalot. En apprenant cette nouvelle, ce pauvre air, émerveillé qu'une telle distinction honora justement son ami le plus intime, s'est senti grandi indirectement. Il n'a pas pu résister au plaisir de me l'annoncer, et cela à voix basse, comme un secret. Tout ce que ce misérable a rêvé de faire, un autre, et justement son meilleur ami, le ferait. Ce fait cinglant le laissait calme et comme privé de vie. Une sorte de colère causée par l'impuissance était visible dans ses yeux. L'envie et l'ambition rongent cet homme. Il rêve d'un événement qui, du jour au lendemain, le placerait au-dessus de ses semblables. Mais comme cet événement ne s'est jamais produit et qu'il ne se produira jamais, il s'est aigri. Jamais, à ses yeux, on ne mérite un succès. Il est intrigant à un point qu'il est difficile d'imaginer. A-t-il un ami puissant qu'il n'éprouve aucune gêne à lui écrire, après un long silence, pour lui demander d'abord de ses nouvelles et finalement un service? Il désire savoir immédiatement si on a de l'amitié pour lui. Il est tellement impatient de parvenir qu'il a surtout peur de perdre du temps, d'être aimable pour rien. Chaque fois qu'il rencontre une figure de connaissance, une seule chose l'intéresse, son interlocuteur pourra-t-il lui être utile? Mais comme il ne sait pas exactement ce qu'il veut, la conversation ne tarde pas à tomber sans qu'il ait su quoi solliciter. Alors, comme accidentellement, il demande « Vous n'avez rien pour moi ?» Cela lui semble si naturel de poser une pareille question qu'il ne l'enveloppe même plus et qu'il la pose tout de suite. A-t-il un camarade qui lui a déjà rendu un service, qui ne peut se retenir, s'il le rencontre par hasard, de le solliciter de nouveau ? On imagine aisément ce que la chance de Perceval a pu susciter d'envie dans un tel cerveau. En me parlant, il était pâle. En même temps qu'il étalait son amitié pour le gouverneur, il s'efforçait de diminuer le mérite de ce dernier. J'allumai une cigarette et je dis à Loustalot, en quelque sorte pour le consoler, « Tu verras que ce sera bientôt ton tour. »« Plutôt le tien, » me répondit le malheureux qui avait cru discerner dans ma voix une envie semblable à la sienne et qui, indulgente à lui-même, ne pardonnait rien à autrui. « Comment a-t-il pris la chose ? » demandai-je, de manière que mon interlocuteur ne s'imagina pas que l'envie me fermait la bouche. « Très bien, il ne paraît même pas en saisir l'importance. En tout cas, je puis affirmer qu'il n'est pas homme à abandonner ses amis dans le succès. Je le crois capable de faire pour eux plus qu'il ne devrait pour sa tranquillité et sa sécurité. Car tu n'ignores pas que ce qui fait la force d'un homme de gouvernement, c'est de savoir résister aux sollicitations. » Ces paroles pompeuses me causèrent, je dois l'avouer, une impression désagréable. Car quand certains de mes amis réussissent, ce qui est le cas de Perceval, il m'apparaît qu'ils agissent justement comme je l'aurais fait à leur place. Je ne pus m'empêcher de dire « Aux hommes seuls qui surestiment leur valeur, le succès tourne la tête. » Loustalot, naturellement, crut devoir me montrer, grâce au prétexte que je lui montrais, qu'il était plus fidèle ami que moi. « Je constate que tu ne connais pas du tout Perceval. Ce qu'il fait, personne ne le ferait. Il n'attend même pas qu'on le sollicite. Tu es peut-être son chef de cabinet à cette minute et tu ne t'en doutes pas. » Cette supposition me mit hors de moi. Mais je n'en ai aucune envie. Ne dis pas cela, tu serais bien content. J'étais indigné. Pour croire à une obligeance gratuite, il faudrait que je fusse un enfant. Cependant que Loustalot m'associait ainsi au destin de Perceval, il ne souhaitait en réalité qu'une chose, être le seul ami du gouverneur. Sa jalousie se portait même sur moi, qui venait pourtant de montrer clairement que je ne recherchais aucun privilège. C'était peut-être ce désintéressement qui justement l'inquiétait, car il n'avait pas la force d'être désintéressé, tant il craignait de passer inaperçu. Il ne se rendait pas moins compte qu'une attitude comme la mienne pouvait plaire. De là à me soupçonner de calcul, il n'y avait qu'un pas. Si je lui avais dit, au contraire, que je tenais à la fonction de chef de cabinet, fonction à laquelle sans doute il aspirait également, il eût été soulagé. À présent, il voulait être seul à connaître Perceval. En ce cas, il n'eût, j'en suis certain, accepté aucune faveur. Il eût simplement montré à son idole qu'il ne fallait pas se troubler, qu'il fallait savoir écarter les quémandeurs, même ceux offrant en apparence quelques garanties. Il se croyait fait pour jouer le rôle d'une femme, écartant de l'amant puissant qu'il aime tout ce qui peut diminuer son amour, lui ouvrir les yeux ou l'attirer dans une autre voie. Il était visible que toute l'ambition de Loustalot était de devenir l'unique conseiller de Perceval, de le préserver d'embûches qu'il serait seul à prévoir. Il était également visible qu'il ne rêvait plus que d'un long entretien avec Perceval. Or, à ce qu'il m'a affirmé, il n'avait justement pas vu ce dernier depuis une semaine. Ce matin, il s'est précipité à son domicile, mais le gouverneur, affairé, n'a pu le recevoir. Depuis, Loustalot vivait sur des charbons ardents. Tant qu'il n'aurait pas renoué, je devinais qu'il ne dormirait ni ne mangerait. C'est en effet une des choses les plus pénibles qui soient que d'être tenu éloigné des grands événements, alors qu'on aurait pu y participer si on avait eu simplement l'idée de se lever une heure plus tôt. Quand la fortune vous a vu, même si elle vous néglige, du seul fait qu'elle vous a vu, le mal vous semble moins grand et le bonheur qu'elle apporte à d'autres vous est plus supportable. À ce moment, je ne sais plus sous quel prétexte, Madeleine entra dans mon bureau. Je lui appris la nouvelle avec d'autant moins d'ennui que j'ai souvent observé que les femmes ont ceci de remarquable, qu'elles ne sont jamais envieuses de la réussite d'un homme. Cette nouvelle la laissa, en effet, complètement indifférente. Elle ne songea même pas à regretter qu'une telle distinction ne fût pas tombée sur moi. Pourtant, je sentis à son regard qu'elle me trouvait indigne de mériter cet honneur. Loussalot crut alors gentil de répéter, pour plaire à ma femme, que j'étais peut-être, au moment même où il parlait, chef de cabinet de Perceval. Madeleine ne répondit pas, comme si cette possibilité était la dernière qui pût se réaliser. La colère m'envahit qu'elle me témoignât un tel mépris. Je me contins pourtant à cause de Loustalot. Je ne souhaitais plus que de le voir partir. Brusquement, au risque d'être impoli, je lui dis que j'avais affaire. À son expression, je compris qu'il pensait que je lui en voulais de m'avoir appris les succès de Perceval. Une fois seul avec Madeleine, je ne sus comment l'attaquer. J'étais énervé. La chance de Perceval, bien que je ne voulusse pas l'admettre, m'avait mis de mauvaise humeur. Brusquement, je pris Madeleine à partie. « Au fond, lui dis-je, tu as de l'admiration pour Perceval. Tu trouves que c'est un homme remarquable. Les seules choses qui comptent pour toi, ce sont les honneurs, l'argent. Hier Bélange, aujourd'hui Perceval, et demain, peux-tu me dire qui ce sera ?» Lorsque je suis en colère, je ne perds pas seulement le contrôle de moi-même, mais le désir me vient aussi de faire montre d'une bassesse d'âme qu'on aurait peine à imaginer. Ce que pour rien au monde je ne dévoilerai dans mon état normal, c'est à quoi je songe immédiatement dès que je suis en colère. « Oui, je comprends maintenant. Si tu ne m'aimes pas, c'est que je n'ai jamais rien fait pour devenir important. Ce que tu cherches dans un homme, toi, c'est la part d'honneur qui peut retomber sur toi. » Je suffoquai, mais Madeleine demeurait indifférente à mes paroles. Elle est de ces femmes avec lesquelles, quelque sensés que soient les reproches qu'on leur fait, on est toujours dur. Elle ne voit qu'elle-même. Comme il n'y a pas de blâme complètement juste, elle ne discerne pas ce qui vous guide, mais par contre, elle découvre immédiatement par où vos remontrances pêchent. Et le reproche serait marqué d'un seul point d'erreur, que cela lui suffirait pour se donner raison. Mais, en parlant, je ne m'attardais pas à de telles réflexions. Ma colère grandissait, d'autant plus que sa cause était le sentiment vague que Madeleine m'eût aimé si j'avais ressemblé à un de ces personnages pleins de fatuité que j'abomine. « C'est bien cela la vie, dis-je. Les femmes admirent les imbéciles, mais lorsqu'un homme aime profondément celle qu'il a chérie, lorsqu'il vit simplement, uniquement pour elle, on le trouve ridicule. Eh bien, Madeleine, je t'annonce que cela va changer. Maintenant, tu es à ma merci. Tu n'as plus que moi. Il va falloir que tu fasses ce que je veux, sinon, en me perdant, que deviendras-tu ?» Bien que ce fût avec colère que je m'exprimais, je remarquai que Madeleine, à l'encontre du jour où je lui avais fait une scène au sujet des orchidées, semblait sûre d'elle-même et ne paraissait rien redouter. Pour l'émouvoir, il aurait fallu que j'élevasse encore plus la voix, et cela, je ne m'en sentais pas le courage. Je continuais cependant, poussant des pointes dans un ton plus haut, pour voir si je n'étais pas plus près du but que je ne le pensais, mais en vain. Alors, dégoûté de moi-même, je lui dis le plus durement que je pus, avec l'espoir que ce dernier mot en ferait plus que toute la scène elle-même, « Tu n'as qu'à partir !» Le plus simplement du monde, elle se retira. Alors j'eus conscience qu'elle eût pu me quitter plus tôt si elle l'avait voulu, et qu'elle m'avait néanmoins témoigné de la soumission, puisqu'elle m'avait écouté jusqu'à la fin. Un changement brusque se fit en moi. Ma colère tomba. Je courus derrière elle pour lui demander pardon. Mais lorsque je l'eus rejointe, alors que je me dépensais en marque de tendresse, elle me dit sèchement « Assez de toutes tes comédies !» Le silence des jours précédents avait lentement couvé cet abcès. Ce que je redoutais confusément était arrivé. Maintenant, quoi que je puisse dire, elle me regarderait comme un étranger. Elle avait longuement réfléchi. Mais ce qu'elle avait trouvé dans tout ce temps, c'était que moi, qui l'adorais, j'étais un comédien, que plus jamais elle ne souffrirait par mes paroles, que plus jamais elle ne se fâcherait avec moi, qu'elle m'avait retranché du monde, que je n'étais qu'un homme sans la moindre sincérité. J'étais bouleversée au point de ne même pas songer à me justifier. L'impression que je ressentis est peut-être la plus tragique qui puisse être. C'était fini entre nous. Je ne pouvais même plus me défendre, car Madeleine, lorsqu'elle croit avoir raison, est inébranlable. Je lui eusse dit les paroles les plus émouvantes, les plus profondément sincères, j'eusse pleuré à ses genoux, que, du moment qu'elle était convaincue de ma duplicité, elle ne m'aurait pas cru. Je me sentais impuissant. La preuve la plus éclatante de mon amour l'eût laissée indifférente, puisqu'elle ne croyait pas à cet amour. Je restais pourtant une minute devant elle, avec l'espoir insensé qu'à la vue de ma détresse, elle changerait. Puis, quand elle se mit à feuilleter une revue, je me retirai sans dire un mot. Mon attitude pouvait paraître justement celle d'un comédien. J'étais arrivé éploré et plein de tendresse, et sur une seule parole d'elle, je m'en allais. Cela devait la confirmer dans son jugement.